Qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui? Alors, il y a les familles monoparentales, les familles recomposées, les parents qui n'habitent pas ensemble, ou encore les parents homosexuels. Des modèles qui se développent depuis une trentaine d'années et qui font s'interroger les psychologues.
Alors, quelles sont les crises que peuvent rencontrer ces familles et comment les aider à les traverser? Ce sont les questions derrière le livre « La transparentalité, la psychothérapie à l'épreuve des nouvelles familles ».
Deux des auteurs, Pierre Fossion et Marie-Carmen Réjas-Martin, sont avec nous, je crois.
Par téléphone. Oui, tout à fait, nous sommes
oui,
là.
Oui, super, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux psychothérapeutes et vous serez les invités du Club 44 ce soir à la Chaux-de-Fonds. Qu'est-ce qui définit la famille aujourd'hui?
Ben, je pense que ce qui est important de signaler, c'est que ce qui devrait, selon nous, définir la famille à l'heure actuelle, ce n'est pas tellement la forme qu'elle revêt, mais plutôt le fond, c'est-à-dire le contenu relationnel qui existe au sein de la famille, en ce sens que, par exemple, un beau-père peut jouer un rôle effectif de père, pour autant qu'il établisse avec l'enfant des liens relationnels de qualité et durables, donc plutôt, je dirais, le fond que la forme.
Alors, avec l'apparition des nouveaux modèles, il n'y a plus vraiment de référence de modèles familiaux. Est-ce que c'est un problème ?
Je pense que toute forme de famille peut poser des problèmes, que ce soit la famille dite classique, qui est la famille nucléaire, les deux parents, les deux enfants, mais qui est en train de devenir minoritaire dans les pays occidentaux. Je pense que toute forme de famille peut revêtir des problèmes, mais spécifiquement par rapport aux nouvelles formes de famille, ce qui pose problème, c'est si on tente de les aborder en se référant à un cadre prétendument universel qui serait celui de la famille nucléaire traditionnelle. C'est-à-dire si on applique les postulats de la famille traditionnelle, enfin dite traditionnelle, parce qu'elle n'est pas tellement que ça, si on applique ces postulats à ces nouvelles formes de famille, alors en tant que psychothérapeute, on est plus que probablement voué à l'échec et voué à se casser les dents sur quelque chose qu'on appréhende mal.
Alors quand on parle de famille universelle, de modèle universel, en fait, ça n'a jamais vraiment été le cas. C'était très, comment dire, ethnocentrique, puisque en dehors des sociétés occidentales, les modèles familiaux étaient déjà fort différents d'un papa, une maman, et puis deux enfants, si possible un garçon et une fille.
Oui, tout à fait. Justement, l'intérêt, c'est de chercher ailleurs aussi, et pas uniquement dans le modèle occidental. Si le thérapeute reste convaincu que le seul modèle, en tout cas en Occident, qui serait valable, c'est papa, maman et les enfants, eh bien, on devient des thérapeutes maltraitants. Le thérapeute doit aujourd'hui, plus que jamais sans doute, s'adapter à toutes ces nouvelles configurations familiales. Et vous avez tout à fait raison de dire que ailleurs, dans d'autres contextes socio-géographiques, eh bien, on peut retrouver d'autres configurations familiales.
Le but de votre livre... Pardon, je vous coupe, allez-y.
Non, et que ces configurations familiales fonctionnent très très bien. Et dans l'ouvrage que nous avons écrit, nous faisons notamment référence à un ouvrage écrit par un grand anthropologue français qui est Maurice Godelier, qui s'appelle « Les métamorphoses de la parenté », où il analyse pratiquement toutes les formes de famille qu'il y a eu sur la Terre, dans toutes les ethnies, dans tous les peuples. Et il en tire une série de minimums, de plus petits communs dénominateurs de ce qui désigne une famille. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'un homme et une femme ensemble n'engendrent jamais un enfant. Ils engendrent un fœtus, mais pour faire un enfant, il faut un environnement social, il faut un environnement culturel, et il faut d'autres personnes que les parents biologiques. Et dans certains pays, la filiation biologique a beaucoup, beaucoup moins d'importance que celle que nous lui donnons dans deux pays.
Le but de votre livre, c'est donc de mieux comprendre ces nouveaux modèles familiaux pour pouvoir mieux les aider à traverser les crises qu'elles rencontrent. Ce sont les mêmes crises que les familles dites traditionnelles?
Oui, grosso modo, ce sont les mêmes crises. Je pense qu'il y a des avantages à ces nouvelles structures familiales, il y a des inconvénients, mais elles traversent des crises qui sont équivalentes et qui sont avant tout des crises relationnelles, des crises d'appartenance, mais que l'on pouvait tout à fait trouver dans la famille nucléaire, dite classique, je mets toujours le mot classique entre guillemets, évidemment, mais que si l'on met ces crises qu'elles traversent sur le dos de, si on impute la responsabilité de ces crises sur la structure, sur la forme que revêtent les familles, à ce moment-là, c'est un écueil parce que il faut aller chercher ailleurs et se dire que ces crises, on peut les rencontrer partout, dans toutes les structures familiales, mais que c'est pas la structure familiale en soi qui pose problème.
Oui, j'ajouterais la crise de l'adolescence, comme on aime la nommer, elle est quasiment la même dans une structure dite classique que dans les autres structures familiales. Donc, l'adolescence, n'a rien à voir. Les difficultés à l'adolescence ne touchent pas aux systèmes familiaux d'aujourd'hui différents d'il y a 50 ans.
Format A3.
On s'intéresse aux nouveaux modèles familiaux avec nos invités Pierre Fossion et Marie-Carmen Réjas-Martin.
Famille monoparentale recomposée, parents du même sexe, ces nouveaux modèles obligent les thérapeutes à formuler de nouvelles réponses aux crises qu'elles peuvent rencontrer.
Les thérapeutes, les thérapies d'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'elles sont adaptées aux nouveaux modèles familiaux ou alors est-ce qu'il faut également réinventer les thérapies ?
Je pense qu'il faut en tout cas les adapter, puisque par exemple la psychanalyse qui reste un référent en psychothérapie a quand même pour objet d'étude, si on se réfère aux écrits de Freud, à la famille nucléaire bourgeoise. Donc c'est évident que cette théorie n'est pas adaptée aux systèmes familiaux que nous rencontrons à l'heure actuelle. Les premiers écrits, les écrits fondateurs en thérapie familiale se réfèrent également à la famille nucléaire, et là aussi il faut une adaptation des modèles pour pouvoir appréhender finalement ce qui caractérise ces nouvelles familles, c'est que souvent il y a un environnement de type parental plus élargi qui entoure l'enfant, je pense particulièrement aux familles recomposées, et que dans ce système élargi, il faut pouvoir repérer les intervenants important, majeur, et ne pas se focaliser uniquement sur les parents biologiques de l'enfant.
Mais est-ce qu'il y a des réticences ? Oui, ajoutez seulement.
Oui, merci. Ce qui est intéressant, c'est de permettre aux jeunes, aux enfants de ces familles dites recomposées, au système élargi, de leur donner le droit aussi à la mémoire, c'est-à-dire qu'ils puissent tenir compte de l'histoire de leurs parents, leurs géniteurs, mais aussi avoir droit à parler d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'un demi-frère, parce que ça lui donne aussi une appartenance, une assise, une colonne vertébrale. Ce qui est compliqué, souvent, c'est que l'enfant n'ose pas parler de la belle-mère, du beau-père, du deuxième beau-père ou de la troisième belle-mère, parce qu'il pense qu'il ne sera pas loyal avec ses parents d'origine. Or, la loyauté, elle est à différents niveaux, et la mémoire et la transmission, c'est vraiment quelque chose d'important, et sur lequel les thérapeutes, enfin en tout cas nous pensons, devraient s'attarder davantage pour soutenir justement ces systèmes élargis.
Est-ce qu'il y a quand même des réticences ou des craintes exprimées vis-à-vis des nouveaux modèles ?
Alors, je pense qu'il y a pas mal de réticences et qu'il y a pas mal de craintes. Bon, maintenant, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque fois qu'une nouvelle structure familiale apparaît, elle est l'objet de craintes. Par exemple, dans les années 70, le divorce a été fortement stigmatisé et accusé de générer la violence chez les jeunes, jusqu'au moment où le phénomène a pris une telle ampleur sociale qu'on s'est rendu compte que, finalement, le divorce n'est pas plus vecteur de pathologie que la structure familiale classique. Et donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle structure qui apparaît, elle engendre de la crainte. Et par exemple, on l'observe maintenant avec les familles homoparentales. Il n'y a qu'à voir le débat qu'il y a eu en France il y a maintenant, je pense, 2 ans, lorsque la loi sur le mariage pour tous est passée. Or, force est de constater que, par exemple, aux États-Unis, il y a des dizaines et dizaines d'études qui sont intéressées au développement des enfants issus de familles homoparentales, et que ces enfants ne présentent pas plus de problèmes que n'importe quel autre enfant. Et donc, c'est toujours au début qu'il y a une crainte et une volonté de psychiatriser ce qui n'est finalement qu'un phénomène social.
Marie-Carmen Réjas. Oui, peut-être un dernier conseil aux thérapeutes qui nous écoutent, qui ont ces nouveaux modèles familiaux dans leur entourage, enfin qui traitent ces personnes. Est-ce qu'il faut être plus ouvert, peut-être ?
Dire il faut, c'est déjà imposer quelque chose, mais c'est important d'écouter tout ce qui entre, tout ce qui filtre, ou tout ce qui se sous-tend dans les relations entre les différentes personnes de ce système. Je pense que le plus important, c'est cette écoute et ce droit à être. Je pense que ça, c'est important. Maintenant, ce qu'on précise aussi dans notre travail et qu'il est important de préciser aussi aujourd'hui, on n'idéalise pas du tout ces nouveaux systèmes. Enfin, ce qu'on appelle nouveaux, ils ont déjà une quarantaine d'années, mais on ne les idéalise pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans ces systèmes. Il y en a là comme il y en a ou il y en avait dans les familles dites classiques. Mais c'est important d'être à l'écoute et de ne pas pathologiser toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées finalement pour tout un chacun dans la vie, tout simplement.
C'est votre conférence ce soir au Club 44, Pierre Fossion, Marie-Carmen Réjas et Martin. Famille liquide, famille solide, la psychothérapie à l'épreuve des nouvelles familles. Ce sera à 20h15, on mettra tous les détails sur le blog de Format A3. Et on vous remercie beaucoup pour votre présence ce matin.
Merci à vous.
Merci.
Belle journée.
A3, c'est plus sympa. Format A3.